J'arrive pas à parler sans mes mains. C'est un peu... Je ne sais pas si je suis un peu italien dans mes racines. Robert Rive. Rivoli. J'étais bien au lit ce matin. Et même je rêvais. Et donc, toujours un plaisir d'être ici. Et c'est un plaisir parce que il y a un long chemin parcouru et j'aime bien être dans les lieux où il y a un long chemin parcouru avec fidélité et intégrité. Et pas juste les briques bien sûr, mais les personnages que je rencontre ici, quelquefois ça change chaque fois que je viens, mais il y a toujours des fidèles et il y a toujours les gens qui portent une vision. Et c'est pas évident de porter une vision. Bien sûr, c'est facile de commencer avec une vision. Et si on faisait la liste de tous ceux qui ont reçu et qui ont dit « voilà, ça va changer la France » et après qui demeurent dans cette vision, bon, il y a beaucoup qui commencent et très peu qui terminent. Et on n'a pas encore terminé la route. On n'est pas encore arrivé à la fin. Mais j'aime venir ici parce qu'il y a une vision et... les gens ont couru avec cette vision depuis longtemps. Et si on parle du temps, hein, je sais qu'il y a quelquefois des événements, et ce n'est pas toujours évident de gérer ces événements, mais moi j'ai un événement dans ma vie cette année, parce que cette année, ça fait 30 années que je sers le Seigneur. 30 années avec... Et d'un côté, bon, comment... C'est quand même un poids. C'est bien, mais c'est aussi comment faire. Parce que tu peux dire, oh, mais tu sais, il y a les gens qui veulent changer le monde en 2 semaines. Et il dit, mais après 5 années, j'ai vu 10 000 personnes sauvées. Et on va en Afrique. J'étais en Éthiopie. Un gars, il me dit, oh, mais notre église, ça existe depuis 30 ans. Et vous savez, on a vu 2 millions de personnes sauvées. Et on a commencé avec 15. Je dis, oh. Qu'est-ce qu'on dit? Et c'est merveilleux. L'Éthiopie, la réalité. En 30 années, j'ai vu 2 millions de personnes sauvées. C'est devenu une grande dénomination. Et voilà, oh, super. Ça commençait avec un gars qui a le Saint-Esprit est venu sur lui dans le cul. Oh. Et moi, 30 années en France. Et j'étais très content de chanter « Tourner les yeux vers le Seigneur et rayonner de joie ». Parce que j'ai chanté ça au départ. C'est bien, j'étais très content ce matin de chanter des chants, un peu de « Jeunesse en mission »,« J'aime l'Éternel », tout ça. C'était bien parce qu'il y avait un moment qu'on s'était frais, qu'on s'était... On n'avait rien en France, on n'avait rien, il n'y avait que les ailes de la foi. Et il y a les gens, les ailes de la foi, c'est super les ailes de la foi. Mais quand il y avait « J'aime l'Éternel tourner les yeux oh » hein? et ça m'a aussi donné cette synergie avec les générations. Et j'espère que ce matin, on va trouver une certaine synergie de ceux qui persévèrent dans une vision. Et... en cherchant une sorte de parole, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux dire? Et ce n'est pas pleinement formé en moi. Donc vous avez un message à moitié formé, mais j'espère que ça ne sera pas déformé, mais ça va, j'espère, vous mettre de l'eau à la bouche. Et souvent on dit une église mère. C'est souvent l'image d'une église, la Jérusalem, notre mère. À tous. Mais moi, j'ai contraire ce matin. Moi, j'ai Église Père. Tu vois, Église Père. Et j'avais un peu ça à cœur de vous dire que vous êtes une Église Père. Et après, j'ai dit, mais combien c'est difficile d'être Père? Combien c'est difficile? Combien? Bon, c'est difficile d'être Mère aussi, mais bon, c'est difficile d'être Père. Et bien, au-delà de tous ces rôles réels, je veux dire, derrière, il y a une identité père. Et je pense que, voilà, je dois me mettre, comment je peux dire, je dois faire face à cette réalité dans ma vie, que je suis une personne père. D'un côté, qu'est-ce que c'est une personne père? Qu'est-ce que c'est une église père? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas enfant, ça veut dire que vous n'êtes pas juste ballotté à droite et à gauche, et ça veut dire que, surtout pour un père, la bataille pour la descendance. Je pense que c'est ça qui est vraiment un défi. Quelqu'un qui est père, c'est l'autorité, mais pas la tyrannie. C'est de gérer, c'est de laisser la place. À un certain moment, on est plus jeune père, il y a les jeunes pères, il y a les pères un peu plus âgés, et après il y a les grands-pères. Mais je pense que là, ce matin, je priais, je disais, mais comment est-ce que je peux parler d'église père, ou même des mouvements pères dans la région? Et premièrement, il y a un parcours, mais pour m'aider et pour vous aider à définir ce mot père, j'ai besoin d'une personne. Donc voilà, on va faire recours à notre père, à tous. C'est qui? Abraham. Et j'aime beaucoup Abraham. Parce que c'est un nomade. Et c'est pas quelqu'un qui sort de l'école biblique avec son diplôme en main. C'est vraiment quelqu'un qui est très cru d'un côté, qui représente la foi à nu. C'est un gars qui est bédouin. Et moi, j'aime bien aller quelquefois dans le désert. J'étais en Algérie, j'étais en Égypte, j'étais dans le Sinaï, là, l'année dernière. Et j'étais avec un tas de personnages là. On était voilà sur les pas d'Abraham d'un côté. Et il y avait le ciel étoilé. Et on allait passer la nuit là dans le désert. Et j'étais avec des amis musulmans. Il y avait tout un groupe. Ils étaient 15. Et après il y avait pas beaucoup. Moi je pense j'étais. Il y avait deux ou trois chrétiens je pense qui n'osaient pas trop se déclarer. Et tout d'un coup, là, les gens, parce que ça fait... Il faut se montrer religieux d'un côté, tout d'un coup, les gens se sont levés, ils sont allés dans un petit coin, et ils ont commencé à dire... Et moi, j'étais un peu dans ma... Voilà, moi, je suis chrétien. Et j'ai jugé un peu, mais après, Dieu, il m'a vraiment repris. Il m'a dit, ah, mais Robert, là... Et Abraham, il a prié comment, là? Il était comment, lui? Il a prié comment? Il a dansé avec un tambourin, là, avec une guitare électrique. Et il dit, peut-être Abraham était plutôt comme ces gars-là que toi, quand tu adores. Bon, je ne dis pas que tout était vrai et parfait dans ce que les gens faisaient. Mais ça m'a quand même... Ça m'a fait penser encore à Abraham. Qu'est-ce qu'il avait? Il n'y avait pas la Bible. Il n'y avait même pas le Torah. Et qu'est-ce qu'il avait, lui? Pour être édifié, lui, il était un païen d'un côté qui quittait Ur des Chaldéens. C'est, voilà, comme tous les païens autour de nous, d'un côté, on ne connaît rien. Et c'était pré-chrétien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas Christ, il n'y avait pas Moïse, il n'y avait pas les 10 commandements, il n'y avait rien. Mais il était un homme qui a entendu Dieu. Devant le ciel, Dieu lui parlait, allez, quitte, allez, un nouveau départ. Donc il était un pionnier, et les pères sont souvent des pionniers. Il a quitté, il a fait quelque chose de différent, il a choisi d'être un petit peu marginalisé des autres. Quel défi! Parce que c'est beaucoup plus facile de rester dans la zone de confort, de faire comme tous les autres tout le temps. Et je dirais un père est celui qui ose être un pionnier de changer. Surtout les pères évangéliques en France. De dire, voilà, vous êtes évangéliste? Non, évangélique. Non, on est toujours... C'est incompréhension de quelqu'un qui fait un pas vers un pays promis, vers autre chose. Et il a osé faire ce pas, avec très peu. Et tout ce qu'il avait finalement, c'était la sensibilité à la voix de Dieu. C'est incroyable. Il n'avait pas du papier, il ne pouvait pas méditer, prendre sa Bible, regarder l'histoire. Mais il avait juste le ciel. Mais ce qu'il avait, et ça c'est peut-être essentiel, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une promesse. Et là, il faut s'accrocher à la promesse. Je pense que les pères sont toujours porteurs d'une promesse. Toujours porteurs d'une promesse. Et quelquefois, c'est difficile à mettre des paroles à cette promesse. Parce que, bon, bien sûr, oh, tu auras une voiture, c'est une promesse. Tu auras ça. Demain, vous pouvez profiter de votre promesse. D'accord. Tout ça, il y a les petites promesses de chaque jour. Mais je veux dire, porter une promesse. Et je vais être fort maintenant. Porter une promesse pour une nation. Et je ne dis pas ça parce que souvent les gens, oh, vous aurez des nations et c'est du blabla, tu vois, parce que ça fait beau. Et on n'a pas vraiment à marcher avec ça pendant 30 années. Hein, si je n'ai pas des nations après une année, voilà, on change de piste. Il y a notre congrès, il y a notre mode, il y a tel et tel qui a l'ancien, et maintenant il y a ça, il y a ceci. Mais je veux dire, vraiment porter long terme quelque chose pour influencer une nation. Waouh, ça c'est un père. Et on ne lève pas un bébé en une année. Voilà, j'aimerais bien que, normalement, on dit vers 18 ans, ils sont adultes, mais ça dure peut-être, je ne sais pas, peut-être il y a des histoires, on peut dire, oh, mais jusqu'à 30 ans, jusqu'à, on ne sait jamais, mais bon, est-ce qu'on s'arrête d'être père? Jamais, c'est, et on a toujours une responsabilité, et quelquefois on dit, oh, mais on est frustré parce qu'on aimerait que ça aille plus vite. La maturité d'une prochaine génération, la multiplication d'une famille, dans la perfection. Non, ça ne se passe pas comme ça. Souvent, il faut s'accrocher. Et ça, c'est pourquoi Abraham, il est le père de nous tous. Parce que c'est merveilleux qu'il marche avec une promesse. Et j'aimerais vous donner deux versets bibliques qu'on va regarder. Et un, c'est Genèse 15. Et ça, c'est des origines. Ça, c'est l'histoire, Genèse 15. C'est l'histoire. C'est un fondement. C'est Abraham, quoi. C'est notre bédouin. C'est notre homme qui croit en Dieu unique, qui est là dans son désert, avec sa femme, avec sa tante, avec toutes ces choses-là. C'est cru. C'est la base. C'est pré-Bible, pré-commandement. C'est un homme marchant avec son Dieu. Et après, je vais vous donner Romains 4, qui est des siècles et des siècles après, où tu as Paul qui développe toute une doctrine de la justification, mais qui fait référence à Abraham. Et là, tu as une autre illustration par rapport à ce qu'Abraham a vécu. Et après, il y a nous, Église, Père, personne, Père. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Mais ça veut dire une chose. Ça veut dire au moins une chose pour nous. Parce que j'ai parlé de pionniers, j'ai parlé de promesses. Mais tout ça, ça s'accroche à une chose. Et ça, c'est la bataille pour maintenir la foi. C'est comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Tu vois, c'est... Bravo! Bravo, Paul! Et... c'est un vrai combat d'être père. C'est un vrai combat de garder une vraie promesse. C'est pas un combat d'avoir une promesse superficielle, parce qu'on peut changer comme on change de vêtements. Mais si tu veux vraiment vivre quelque chose qui te touche dans tes entrailles, et tu veux le voir se réaliser, ça c'est une bataille de foi. Et je pense qu'on a tous des batailles de foi. Et peut-être ça se tourne autour de peu de choses. Souvent ça se tourne autour, même ça peut être comme pour Abraham, sur la descendance, sur notre famille, sur des relations familiales, de croire même en... c'est difficile, mais on croit quand même, on croit, on refuse de lâcher. On marche, jour après jour, on marche. Et donc, on va regarder Abraham quand même. Mais pour nous... Et pour que ça soit très personnel, ça peut être notre bataille, votre bataille de foi, à la long terme. Et donc, Abraham, Genèse 15, hein, on va commencer avec ça. Genèse 15. Je vais juste dire deux ou trois choses sur ce passage. Mais... comment est-ce que Comment est-ce qu'Abraham a eu sa parole? Il a ouvert sa Bible? Non. Il a eu une prédication de Robert Reeve, non? Heureusement. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Comment est-ce que tu as parlé? Et après, il dit, dans une vision. Et donc, c'est ça la parole. C'est pas juste, voilà, je te donne Jean 3,15. Je te donne Jean 2. C'est vrai, moi j'aime bien ces paroles. Moi, j'ai des paroles ancrées en moi. Mais pour Abraham, sa parole de père, parce qu'une parole qui allait changer sa vie, une parole qui allait le transformer, qui allait l'emprisonner, qui allait le faire souffrir, c'était plus que juste, voilà, je te lâche une petite parole. C'était, la parole est venue dans une vision. C'était quelque chose qui était sa perspective de vie. C'était une manière de voir sa vie. Et bien sûr, notre perspective, notre vision, il y a ce chant, Seigneur Jésus, sois ma vision. Je pense que finalement, là, Abraham voyait Jésus. On voit ça souvent dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas le temps de développer ça. Mais d'un côté, Jésus était là, en forme très crue. Souvent, mais Jésus était là avec Abraham. Même quand il y a les trois visiteurs, deux anges, un Jésus. Tu vois, c'est Jésus accompagnait Abraham. Pas comme le bébé après Bethléem, mais il était là, l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation du monde. Et il accompagnait, mais là, pour Abraham, c'était dans cette vision d'un Dieu grand. Et je dirais que Dieu devient réel pour nous, pas par une doctrine. Parce que là, j'en ai marre de juste faire une sorte d'école à l'Église. L'Église est beaucoup plus des cours, quoi. On a déjà assez de cours à l'école. Mais moi, je ne veux pas que la parole soit un cours, un devoir. Je veux que la parole soit une expérience pour moi. Et que cette parole soit une vision dans ma vie. Même si je ne peux pas définir. Qu'est-ce que c'est la parole que Dieu t'a donnée? Ah, que je serais... Question piège. La parole de Dieu pour toi, c'est une vision. C'est une vision de Jésus-Christ et une perspective sur ta vie, comment marcher, long terme, semaine après semaine après semaine, qui ne change pas vraiment. Mais bon, bien sûr, les détails changent, la culture change, l'histoire change. Mais cette vision, cette passion qui est dans ton cœur. Et donc, je dirais, la parole de Dieu est venue dans une vision. Et après, la première chose qu'il a dit, sois sans crainte. Parce que ça dérange d'être porteur d'une grande promesse, d'être porteur d'une vision, ça fait peur. Parce que souvent la vision, ça peut être beaucoup plus grande que tu ne pensais, ou ça peut t'engager, on n'aime pas la responsabilité. Beaucoup de gens, surtout aujourd'hui, on a peur de s'engager. On a peur de l'engagement. On ne veut pas se marier, parce que bon, on ne sait jamais, peut-être ça va casser, donc on ne va pas se marier. Et après, on ne veut pas avoir d'enfants parce qu'on n'a pas assez de sous. Et donc, on est en train de diminuer la réalité de père, je dirais, quelqu'un qui assume la vision de sa vie, qui assume la possibilité, et même dans l'Église, d'assumer, d'avoir des leaders qui vont assumer une vraie vision, qui vont porter la responsabilité, pas des mercenaires, pas des gens qui veulent vivre le réveil avec moi. Voilà. Non, allez, la crucifixion d'une vision. Et c'est ça qu'on demande. Et qui veut? Non, je ne veux pas. Parce qu'on est dans une société qui déresponsabilise. Oh, l'État va faire tout ça. Oh, alléluia. Tu vois, on est tellement rempli d'espérance après un débat politique, tellement rempli d'espérance avec tous ces chiffres. Tu sais, j'ai dit, mais allez, où sont les gens qui portent une vision pour la France? Et bon, on en a beaucoup qui vont dire, c'est moi, mais moi je ne le vois pas. Et peut-être qu'il y a plus de réalité, de vision pour la France ici, que dans toutes les campagnes politiques que je vois avec les grands pontifs de ce monde. Et donc voilà, allez, il ne faut pas parler politique quand même, je ne vais pas vous dire comment voter. Hein. Je vous donne une promesse, parce qu'il y a des promesses pour des pères. Et je veux vraiment vous donner ça ce matin. Allez, sois sans crainte. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Hein, c'est... Je veux dire ça, parce qu'Abraham, il est tout seul là, tu vois, il n'a rien. Et je veux vous dire ça, parce que je le reçois ça pour moi-même. Allez, Rob, sois sans crainte. Suis ton bouclier devant les orages de la vie, devant cette réalité difficile de porter des responsabilités avec des flèches, avec des difficultés. Allez, je serai ton bouclier. Ça veut dire qu'il me défend. Il défend ses pères. Et ta récompense sera très grande. Ta récompense sera très grande. Peut-être que je ne vais pas le voir devant moi la semaine prochaine, parce qu'on est tous tellement instantanés. Mais la récompense d'Abraham était très très loin d'être instantanée. Il devait attendre 2000 ans même. Même 4000 ans, on dit. 4000 ans, oui. Non, 2000 ans. 4000 ans pour nous, mais 2000 ans pour Abraham. Parce que la récompense, c'était d'être le père de Jésus-Christ, même, bon, Dieu est le père de Jésus-Christ, mais par sa foi, il préparait cette descendance d'Isaac et Isaac et Christ selon la chair, le Messie, Christ, la semence de David, homme né dans le sein maternel de Marie. Il préparait tout ça et bien sûr déclarait avec puissance selon le Saint-Esprit, Fils de Dieu par sa résurrection. C'est deux côtés mystérieux de Jésus-Christ. Oh mes dieux, mais déclarait. Ça c'était quelque chose qu'Abraham ne pouvait même pas contempler. Déclarer Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection. Mais voilà, il dit, tu auras une grande récompense. Après, grande contradiction, la contradiction d'être père, une grande contradiction. Et je dirais, chaque père marche avec une contradiction. Et au lieu d'avoir honte de la contradiction, il faut dire, voilà, il faut être honnête, qu'il y a beaucoup de contradictions devant la vision que nous portons. Et Abraham, il est très, très vif là. Il dit, voilà, Dieu, c'est bien beau de me dire toutes ces promesses de récompense, mais voilà. Tu ne m'as rien donné. Verset 3. Tu ne m'as pas donné. Tu ne m'as pas donné de descendance. Et je vois l'agonie là-dedans. Je vois l'agonie dans sa réponse. Mais tu sais, tu ne m'as pas donné de descendance. Et moi, j'aime bien cette prière. C'est très réel. Et ça, c'est une bonne prière à prier. Parce que tu as le droit de le dire. Et Dieu veut il veut la réalité. C'est ça, Abraham. Les pères sont très réels. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, c'est juste un truc troqué que je dois vivre. C'est un peu une vision de deuxième main, parce qu'il n'y a pas une transaction spirituelle, là. Il n'y a pas une transaction de mon corps, de mes entrailles. Je dois un peu brader tout ça. C'est comme si c'est mon héritier, c'est ce gars Eliazar. Il n'est pas dans ma descendance. C'est un peu la vente, c'est un peu l'église automatique, les structures humaines et tout ça. Et voilà, ça te donne une bonne descendance. On a trouvé quelqu'un là. Oh oui, il cherche une place. Voilà, je suis arrivé. Ah, d'accord, mais c'est pas les nouvelles naissances, c'est pas tout ce qui sort du fruit de mes entrailles. Ça, c'est le bricolage humain. Mais on est expert avec ça. On va dire, ah, ça, c'est l'avenir. Donc voilà, c'est pas l'avenir. C'est surtout pas l'avenir pour Dieu. Et il dit non, mais c'est pas ça ma solution, verset 4. Il dit, c'est vraiment quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Et ça me réjouit. Parce que bon, bien sûr, on parle physique là d'Abraham. Et ça peut être physique, hein. Moi, je pense que ce qui est physique est très, très fort. Mais moi, j'aime beaucoup cette notion des entrailles de ta prière, des entrailles de ton intercession. C'est ça qui va donner l'héritage. Ce qui sort de toi, ce qui sort de la prière désespérée d'une église, ce qui sort d'un ministère, ce qui sort de ces pères qui marchent avec leurs promesses. Et il y a une satisfaction là-dedans, parce que l'œuvre de Dieu sort de nos entrailles. C'est pas un feu de paille, hein. Ça sort de nos entrailles. Mais des entrailles des pères, les gens qui portent une responsabilité, les gens qui ne savent même pas ce que c'est d'avoir des entrailles. Mais il y a des gens, je pense dans nos familles, on sait ce que c'est d'avoir des entrailles. Quand on voit des enfants qui s'éloignent, quand on voit des situations difficiles, ça nous touche ici. Et c'est parce qu'on est père, on est mère, on est responsable, on a pris. Et garde, il faut prier pour tous ces enfants qui n'ont pas des parents qui les portent avec les entrailles, qui s'en foutent, les laissent marcher. Oh, déresponsabilisation. Parce que là, on est responsable qu'on prie pour quelqu'un, qu'on porte quelqu'un. Et combien l'Église a besoin des pères qui portent l'Église avec ses entrailles, qui portent la France avec ses entrailles. Et donc, il dit, voilà, une promesse, c'est quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Et après le miracle, tu dis, mais c'est scandaleux, Dieu, il ne faut pas me faire ça, il ne faut pas me faire ça. Mais il le fait. Il le menadore, il dit, allez, là, tu es là, tu m'as rien donné. Tu m'as rien donné, hein. Tu es comme ça, tu vois ça. Et il a une certaine réalité en disant ça. Allez, regarde, il n'y a rien. Regarde, il n'y a rien. D'accord. Allez, regarde. Wow. Tu vois toutes ces étoiles. Et après, il dit ces paroles. Et cette parole, bon, si vous pouvez prier pour moi, c'est quelque chose qui est en moi en ce moment. Telle sera ta descendance. Quatre mots. Et c'est des mots qui suscitent une bataille de foi. Ça, c'est la promesse. Telle sera ta descendance. Et c'était physique, c'est spirituel. Tu prends ça comme tu veux. Telle sera ta descendance. Et face à ça, j'ai dit, mais bravo, Abraham. Bravo, Abraham. Il dit là, et c'est la parole qui forme la base de toute la doctrine de la grâce et de la justification. Paul, il était imprégné de ça. Paul, quand il scrutait, il n'avait pas la Bible, Paul, il n'avait pas écrit Romain, là, tu vois. Mais il avait ce passage, et par révélation surnaturelle, par le Saint-Esprit, Paul, il prend ce verset, et Genèse 15:6, c'est comme un fondement du Nouveau Testament, un fondement de la doctrine de la grâce, la doctrine évangélique. Abraham crut, bravo Abraham, Abraham crut en l'Éternel qui lui compta comme justice. Alléluia. La foi, cet homme, cet bédouin-là, qui n'a pas des doctorats, qui est là, presque païen, là, mais qui a la foi. Ah, j'ai dit, c'est ça un père. C'est quelqu'un qui croit. Et ça, c'est notre défi, c'est de croire en Dieu. Pas juste avoir les bonnes idées, mais ça l'a saisi, là. Et après, il y avait une bataille pour la foi. Bon, je vais tirer deux ou trois trucs. La première chose, il dit, moi, je veux reconnaître ça. Et Dieu dit, moi, pour reconnaître que cette promesse est vraie, je veux un sacrifice. Et il doit prendre une génisse et coupé en deux. Le sang a jailli au milieu de cette foi. Paf, il doit prendre un couteau et tchouf, le sang était là. Et ça nous parle de cette alliance de la croix, de Jésus-Christ, son sang qui coule. Et ça, c'est une nouvelle alliance, comme Jésus a dit. Donc nous, on a beaucoup plus même d'Abraham, mais chaque père est saisi par l'alliance. Chaque père est saisi par la réalité du sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous, hein, toutes ces promesses, toutes ces visions, tout ce ministère, ce n'est pas nous. Ça vient de cette alliance de Jésus-Christ, qui est lui qui a pris l'initiative pour mourir pour nous sur la croix. Et c'est comme ça qu'on va reconnaître l'héritage. Telle sera ta descendance, parce que moi, je le veux. Et c'est ça le sceau. Mais il veut un partenaire, hein. C'était une alliance, c'était deux parties. Et maintenant, avec la croix, on a l'impression qu'il n'y a qu'une partie. Jésus a tout fait, moi je reste au lit, en attendant l'enlèvement. Et voilà. Non. Là, il avait deux parties dans cette alliance. Il comprenait bien, Abraham le Bédouin, que tu fais une alliance, tu coupes en deux, et il y a deux parties. Et même avec cette alliance de la croix, qu'on prend la Sainte Cène et tout, il y a deux parties. Il y a Dieu qui dit, voilà, je t'aime, j'ai tout donné. Allez, vous aimez le monde maintenant. C'est à vous aussi de m'aimer et aimer le monde. Et on dit, la roi royale, aimez Dieu et aimez votre prochain. Mais il y a une alliance. Et ce n'est pas juste, voilà, Dieu a tout fait, moi j'ai qu'à... Non, il y a une alliance. Et on voit cette alliance très claire pour Abraham. Et il y a une bataille pour cette alliance. Verset 12, 15-12. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé du sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. Tu sais, il y a quelqu'un qui n'aime pas des promesses, qui n'aime pas des alliances, qui n'aime pas des pères qui ont la foi. Il y a quelqu'un qui n'aime pas ça, c'est Satan. Et il y a quelqu'un qui veut surtout tuer tout ça. Il veut qu'il n'y ait pas des pères qui se lèvent avec foi. Et donc, c'est très réel la bataille. Et donc, sois encouragé quand vous êtes fatigué dans une lutte spirituelle, quand il y a des couchers du soleil dans votre vie, quand tu es accablé de sommeil et de frayeur dans l'obscurité profonde. Bon, désolé, mais ça c'est aussi une description quelquefois du ministère des pères. Il y a des moments de solitude, tu dis, mais est-ce que je suis fou? Pourquoi je persiste avec cette ânerie? Tu dis, mais pourquoi il y a ça? Pourquoi et il y a une obscurité profonde? Et à la frayeur, quelquefois on se lève, la peur, qu'est-ce que je suis fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et Satan savait bien appuyer sur le bouton là. Et après, il dit que les oiseaux de proie essayaient de s'abattre sur le sacrifice. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et là encore, moi je dis, nous on a fait une petite alliance ce matin. Et quelquefois, ça dépend, mais il y a des environnements où tu vois qu'il y a les oiseaux de proie qui n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas quand on élève la joie de la nouvelle alliance, quand on élève la proclamation de la nouvelle alliance, quand on élève la foi de ce nouveau départ dans la vie. Il y a des choses, l'atmosphère là. Il y a les oiseaux de proie, les démons, les princes, les principautés, et qui ils veulent bouffer tout ça. Et beaucoup d'oiseaux de proie en France. Il y a beaucoup. Mais Abraham les chassa. Abraham les chassa, c'est la guerre spirituelle. Et ce matin, on a chassé les oiseaux de proie par notre belle louange, notre belle adoration. Magnifique! Et je pense depuis longtemps, on a pris l'habitude de chasser les oiseaux de proie. Alléluia, bravo, vous le faites ici, dimanche après dimanche. Et quelquefois, bon, quand on n'est pas très fort, moi j'ai eu des réunions, hein, souvent chez moi, hein, où j'ai fait un culte avec deux ou trois oiseaux de proie qui ont volé un peu de viande, et ils rentrent avec ça. Parce que je n'ai pas réussi à... Mais tu sais, il y a les gens qui partent malheureuses avec... Donc, contre une autre vie, ils ne sont pas libérés, hein, tout ça. Mais il faut chasser. Ça, c'est un père. Il chasse les oiseaux de proie. Et après, juste une dernière phrase pour Genèse 15, verset 13. Tu sais, la promesse, ce n'était pas une semaine, ce n'était pas une année, ce n'était pas 10 années, ce n'était même pas 50 ans, ce n'était même pas 200 ans. Quand il dit ici, tu vois la phrase, il parle du peuple de Dieu qui serait prisonnier pendant 400 ans. Et après, il dit, oh, mais je vais juger cette nation, et après. Et il y a une révélation de cette foi d'Abraham est porteur d'espérance pour le futur. Et je dirais là, pour Abraham, c'est 400 ans, et comme je dis, peut-être 2000 ans pour nous. Jusqu'à Jésus-Christ. Mais je veux vous encourager, et je veux m'encourager, parce que ce que je fais, quand vous êtes dans la réalité de la foi du Père, ça a une énorme importance pour les générations futures. Et Abraham était minuscule pendant sa vie, et il a rien vu, parce que c'était minuscule, il n'a même pas reçu ce qui a été promis. Il est mort sans avoir vraiment vu tout cela qui était promis dans ce moment-là. Mais il a gardé sa foi. Et ça, c'est ce que Dieu cherche. C'est pour ça que je me sens en synergie avec vous ce matin parce que vous portez une vision depuis longtemps. Mais ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas parce que peut-être ce qui est fait dans ces expressions d'alliance, dimanche après dimanche, semaine après semaine, dans la semaine aussi, mais tout ce qui se fait est peut-être beaucoup plus porteur sur l'avenir que vous ne pensez. Et ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Et le plus grand argument que Satan allait utiliser contre Abraham, c'est pas la peine de chasser ces oiseaux de proie parce que si ça sert à rien, si ça sert à beaucoup. Abraham, le père de nous tous. Voilà. Je donne ce pays à ta descendance. Toute cette bataille de descendance. Allez, on va terminer en regardant Luc 4, Romains 4. Parce que comment est-ce que ça marche là dans ma vie aujourd'hui? Comment est-ce que ça marche aujourd'hui dans ma vie? Là, c'est l'histoire d'Abraham. Mais Paul fait référence de ça en Romains 4. Et il nous montre comment la foi marche, comment la foi fonctionne. Et il dit ceci. Il dit, peut-être 4, versets 16, 17. Il parle d'Abraham, notre père à tous, selon ce qu'il est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous devant Dieu, en qui il a cru. Et ce Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Avoir cette réalité prophétique de porter la parole créatrice de Dieu en nous, la prière créatrice de Dieu en nous, pour, avec Dieu, appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ça, c'est le rôle aussi d'une église. Une église féconde, une église qui procrée d'un côté, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, qui appelle à l'existence des choses spirituelles. Et après, dans la réalité, peut-être c'est ta réalité aujourd'hui, c'est surtout ma réalité souvent, espérant contre toute espérance. C'est ça, il était là dans son obscurité, mais espérant contre toute espérance. Il crut. Et c'est ça la clé. Il crut et devient. Il crut et devient. C'est comme ça qu'on est transformé. C'est comme ça qu'on maintient notre identité de père. Et c'est comme ça qu'on devient père. Par la foi. Il crut. Il assumait ses responsabilités. Il crut et il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et maintenant, oh, pour nous aujourd'hui, et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant. Tu sais, la foi n'a pas peur des réalités. La foi n'a pas peur de faire face aux dures réalités. La foi n'est pas une pensée positive. Ce n'est pas une sorte de truc New Age où on dit « Ah, mais il faut juste... Ah, ça, c'est le Maya, là. Ça n'existe pas, le mal. » Ce n'est pas un truc « Ah, pense positive. Dieu. » Non, c'est... Tu fais face à ton désespoir. Tu regardes tous les arguments contradictoires de Satan et tu les prends, excuse mon français, en plein gueule, comme ça, paf. Sans faiblir dans la foi. Wow, est-ce que ça c'est possible? Il y a tout un apprentissage là-dedans. C'est pas oh oui, Dieu. Oh, ça c'est superficiel. C'est poudre aux yeux. C'est pas ça la foi. La foi c'est quand tu es, comme Abraham, tu considères la réalité. Et c'est bien beau ici dans le passage parce que c'est comme si le Saint-Esprit ajoute vraiment une couche parce qu'il dit il considéra. Son corps presque mourant. Bon, mais ça m'aurait suffi déjà. Hein? C'est presque mourant. Mais après, il dit, oh, puisqu'il avait pris de son temps, oh, merci d'ajouter le temps exact, 100 ans. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 100. Tu donnes beaucoup de détails là. Détails très négatifs. Oh, mais t'es négatif, ouais, mais la foi existe en faisant face à toutes ces choses. Il ne faut pas cacher. Il ne faut pas parler négatif, mais bon, je ne parle pas négatif. Et après, il ajoute, et le sein maternel de Sarah, déjà, bon, au moins, Abraham, il est presque mourant, mais là, c'est déjà atteint.
déjà atteint par la mort.
Wow.
C'est ça, je pense, la frayeur de sa nuit. Faire face à ça avec tous ces oiseaux de proie qui venaient. Allez, c'est stupide de croire. C'est stupide de croire quand c'est comme ça. C'est, j'ai eu des moments et j'ai toujours ces moments où je contemple, je dis, mais ça c'est bien beau ça, ça c'est loin d'être le réveil. Ça c'est loin d'être la promesse que tu m'as donnée pour une descendance, Seigneur. Ça c'est même, et j'ai pas peur de faire ça maintenant. Je regarde. Sans faiblir, parce qu'on est bien tenté de faiblir. Sans faiblir dans la foi. Et même quand tu rentres, ou quand vous rentrez là, qu'est-ce que vous allez considérer comme attaque contre la promesse? Il y a ça, et là, il y a ça. Mais voilà, sans faiblir dans sa foi. Il considéra tout ça. Et verset 20, c'est la clé. Mais, heureusement qu'il y a un mais. Il a regardé tout ça et après il dit, oh, c'est pas la peine, je rentre à Ur des Chaldéens. Là, c'est fini. Non. Mais face à la promesse de Dieu, amen, face à cette vision, face à cette parole, face à ces trucs qui bouillonnent dans mes entrailles, face à tout ça, il ne douta point par incrédulité. Amen et amen. C'est ça la bataille de la foi, la bataille des pères. Il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Alléluia. Et avoir une vocation de donner gloire à Dieu dans l'orage, avoir une vocation de donner gloire à Dieu jour après jour après jour, même sans avoir atteint la promesse, c'est pas grave. Il donna gloire à Dieu. Et cette adoration, cette gloire à Dieu, n'était pas superficielle dans sa bouche. C'est une expression d'un père qui préparait un futur pour l'humanité. Et moi, je crois un futur pour la France. Je crois un futur pour le Nord-Pas-de-Calais. Mais on considère notre corps. Oh, merci Seigneur. Voilà. Mais là, face à la promesse de Dieu, je ne vais pas douter. Et je vais dire merci Seigneur. Alléluia. Fortifié dans sa foi et dans la gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance pour l'accomplir. Et là, je le crois. Moi, je le crois. Je le crois pour ma vie, que Dieu a la puissance pour accomplir ce qu'il a promis. Qu'est-ce qu'il a promis? Telle sera ta descendance. Je pense qu'on peut tous trouver une promesse de descendance en Abraham. Et moi, ma descendance est encore plus solidement établie maintenant en Jésus-Christ. Après la souffrance de son âme, il verra la lumière de vie et il sera satisfait. Jésus-Christ n'a pas versé son sang pour laisser les millions de Français aller dans la perdition. Je ne peux pas croire que ce sang versé va rester inefficace. Il y a encore temps pour porter ça, même sur nos familles, sur nos enfants qui sont peut-être éloignés. Et peut-être tu peux détailler, ah, mais maintenant il fait ça, il fait ceci, et il n'est pas fait ça. D'accord, considère toutes ces bêtises, considère tous ces péchés, considère tout ce qui est dur et qui crève ton cœur. Mais après, il ne faut pas critiquer. Non, mais face à la promesse de Dieu, parce que je sais que ça sort de mes entrailles. Et face à la promesse de Dieu, je ne vais pas douter. Je vais être fortifié dans la foi. Je ne vais pas laisser les oiseaux de proie voler mon héritage là. Face à la promesse de Dieu, il ne doute à point, mais il donne la gloire à Dieu. Et je vais dire, commence à prier pour des causes perdues. Commence à réveiller votre foi de nouveau pour les causes perdues, parce que ça passe par là. Et Dieu n'est pas impuissant. Pleinement convaincu de ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance pour l'accomplir. Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. Et donc on a tous cette justice du Père. Pourquoi je dois aller au ciel? Qu'est-ce que je vais? Est-ce que je mérite plus que d'autres? Non. On a tous la même récompense.
la justification de la foi par Jésus-Christ. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. On est tous accueillis dans le ciel parce qu'on a cru. Mais il y a ceux qui croient vraiment. Il y a des pères qui croient pour une famille. Il y a des pères, et quand je dis père, j'inclus mère bien sûr là-dedans. C'est au-delà de juste si on est mâle ou femelle. Mais père, père, et que Dieu suscite vraiment un nouvel élan de paternité dans nos églises. Et que ceux qui ont marché longtemps, la bataille après 30 ans pour moi de dire voilà, allez Rob, accepte ta vocation, allez, crois, même si tu n'as pas encore vu, crois encore et encore et encore. Et peut-être ça concerne 400 ans. Ah, Jésus revient demain, hein, peut-être. Mais peut-être Jésus revient en 200 ans. Et ce que nous faisons ici aujourd'hui est vital pour préparer ce réveil. Moi, je le crois. Et donc, nous donnons gloire à Dieu, pleinement convaincus. Et nous donnons gloire à Dieu pour nos enfants éloignés. Nous donnons gloire à Dieu en disant, voilà, je crois. Nous donnons gloire à Dieu pour des situations désespérées. Et même si on dit, ah, mais tu vois, tu as bien pris. Mais ça, c'est quoi? Une semaine, une année, deux années. Mais moi, ma foi, rien ne peut me séparer. C'est ça la victoire des pères. C'est que si c'est dans tes entrailles, c'est là. C'est pour ça que Satan déteste ça. Peut-être il peut même empirer la situation après. Mais tu dis, je ne lâche pas. Si, lâche, lâche, les oiseaux de proie. Non, je ne lâche pas. Jamais, jamais. Même sur mon lit de mort, si je ne l'ai pas vu, je ne lâche pas. Et il dit qu'Abraham est même mort sans recevoir ce qui a été promis. Mais les prochaines générations ont reçu. Ont reçu. Et donc, ne cède jamais. Prie. Et même si c'est pire, ris devant l'ennemi. Dis, voilà, c'est pire, mais je n'ai pas peur de faire. Je considère toutes ces bêtises, toutes ces âneries, tous ces échecs, toutes ces blasphèmes, tout. Je considère tout ça, mais face à la promesse de Dieu. Allez, et je vais étaler toutes les promesses. Telle sera ma descendance. Telle sera ma prière. C'est ça ce que j'ai dit. C'est ça ce que j'ai dit. C'est ça ce qui a été promis. Et face à la... Voilà, je ne doute pas par incrédulité. Et je te donne gloire, Seigneur. Alléluia. Et là, le long terme, il y a encore du chemin pour nous à parcourir, mais on va le faire avec cette foi de Père. Alléluia. Seigneur, je te demande, Père, de nous fortifier ce matin, fortifier par la foi. Et cette parole que j'ai donnée, Seigneur, c'est en moi. Et je veux pas être disqualifié. Donc me voici, réalise ça. Et je veux juste dire ces quatre mots. Tel sera ta descendance. Et Seigneur, moi je crois à ma descendance. Et c'est pas à moi, c'est ta descendance, Jésus. Mais je crois à ça, je prends responsabilité pour une descendance. Et je prie pour cette église, Seigneur, avec son long parcours de vie, comme Abraham dans le désert. Mais Seigneur, je veux vraiment dire oui, telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance. Et je veux terminer avec une prière pour tous ceux qui ont une vraie descendance. Qui peut-être les enfants qui n'ont pas suivi, ou d'autres, ou les parents qui n'ont pas suivi, je ne sais pas, mais. Et là où on dit, mais tu ne m'as rien donné, Seigneur. Mais Seigneur, face à ça, nous voulons contempler le ciel. Et nous voulons dire, Seigneur, que rien n'a lieu. Nous voulons chasser les oiseaux de proie. Nous voulons dire, même en nous considérant les erreurs, les échecs, et on n'est pas condamné, on n'est pas lié. On considère tout ça, mais face à la promesse de Dieu, telle sera ta destinée. Face à cette promesse de Dieu, nous te donnons gloire. Merci. Gloire à toi pour chaque famille ici, pour chaque personne ici. Gloire à toi pour toutes les promesses ici. Gloire à toi. Gloire à toi. Seigneur, nous retrouvons notre foi, nous chassons comme ces oiseaux de proie notre crainte, notre incrédulité. Notre amertume, notre déception, Seigneur. Et nous disons, voilà, je crois et je deviens. Et nous plantons ça comme un piquet de foi. Inébranlable. Et je dis, voilà, je crois, Seigneur. Et merci pour l'héritage qui est ici. Telle sera ta descendance. Pour les familles, que vraiment tu bénisses toutes les familles, que la promesse de salut, la promesse de justice,
séparés